Empreinte d'humanité, le magazine du grand projet La Grotte Chauvet Pont d'Arc, en partenariat avec Fréquence 7, Info RC et RCF Vivarais.
Bonjour, Empreinte d'humanité en ce mois d'octobre se fait son cinéma. C'est en effet d'images d'aujourd'hui dont nous allons parler puisque notre invité est documentariste. Il s'agit de Christian Tran. Bonjour Christian.
Bonjour Laurent.
Durant ce rendez-vous, nous irons aussi à Salavas en compagnie de Christelle Borel d'Info RC qui a rencontré plusieurs membres du comité scientifique à l'occasion d'une nouvelle campagne de recherche. Entre-temps, Maude, élève de 3e au collège de Vals-les-Bains, interrogera le public sur l'intérêt du classement UNESCO de la grotte Chauvet. Et en fin d'émission, nous retrouverons Élodie Fayard et Marie-Charlotte Laudier de RCF Vivarais pour le bloc-notes actualité autour du grand projet Chauvet-Pont d'Arc. En 2009, le syndicat mixte de l'espace de restitution de la grotte Chauvet et ses partenaires ont souhaité qu'un documentariste assure le suivi audiovisuel du grand projet La Grotte Chauvet Pont d'Arc. Sa mission consisterait à filmer toutes les étapes de réalisation de l'espace de restitution, choix des terrains, des architectes, suivi du chantier, etc. À l'issue de l'appel d'offres, Christian Tran a été retenu pour assurer ce travail qui comprend également le suivi de la candidature UNESCO, la valorisation du projet et les enjeux pour le territoire. Ainsi, chaque année, deux films courts de 8 à 10 minutes sont réalisés et diffusés lors des actions de valorisation du projet. Christian Tran, voilà bientôt 5 ans que vous filmez sans cesse toutes les étapes de ce projet, mais qu'est-ce que filme, qu'est-ce que recherche le documentariste, quelles images recherche-t-il ?
C'est une belle question parce que C'est une quête. Les premières images, celles qu'on connaît aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité, c'est celles qui sont dans la grotte Chauvet, hein, datées avec des dates calibrées aux alentours de 36 000 ans. Ce qui peut paraître une sorte d'abysse quoi, dans notre histoire. Et pourtant, quand on parle avec certains scientifiques, ils nous disent 36 000 ans, c'est rien dans l'histoire de l'humanité, c'est peu. Donc, c'est tout un rapport au temps. Le cinéma, les images, faire des films, et quand je parle de quête, c'est un peu comme cette inaccessible quête dont parlait Jacques Brel. L'étoile, c'est cette distance entre cette lumière que l'on voit, que l'on pressent, que l'on veut capter, et que l'on essaie peut-être de sentir, de comprendre, de traduire. Et puis, en même temps, on le sait aujourd'hui, cette étoile, cette lumière, c'est une lumière par rémanence, quelque part, d'étoile qui a disparu déjà dans un espace sidéral incroyable, quoi. Et c'est tellement beau. Et rien n'est fini. Ces animaux, on dirait qu'ils continuent à courir, à se mouvoir. Et dès que les scientifiques qui rentrent dans la grotte ou quelques personnes pour la restituer, des sculpteurs sont sortis, ils continuent à se raconter des histoires. C'est ce rapport dont la permanence de l'image s'inscrit dans un temps qui est ce temps des Aurignaciens il y a 36 000 ans. Et puis, cette envie de notre monde d'aujourd'hui, de ce besoin d'image. Notre envie de partager ces images aujourd'hui, c'est une chose belle déjà que de dire, au-delà de la beauté de ces images, de leur ancienneté, de partager des images. Moi, je fais cette démarche de documentariste, cette activité, parce que j'aime faire partager des images, j'aime parler des images. Donc du coup, cette quête, elle est dans ce rapport au temps, dans ce rapport à cette humanité. Ça nous fait poser des questions sur nous-mêmes, refaire cette grotte, refaire ces images-là. Ce rapport à la nature, c'est exceptionnel. Tout ce dont nous disposons aujourd'hui comme outils n'était pas dans le monde dans lequel, simplement, on peut le dire, ils œuvraient. Et les données n'étaient pas les mêmes. Il n'y avait pas tout ce monde-là sur la planète. Il n'y avait pas l'information qui circulait de la même manière. Quand je vois, par exemple, sur le plateau en Lozère, un cheval de Przewalski, le petit cheval qui est peint dans la grotte Chauvet, je le vois vivant, il a été comme ça amené jusqu'à nous aujourd'hui, et je reste une journée fasciné à le filmer, à le regarder, et quand je vois le cheval dans la grotte, ou le sculpteur, le peintre qui façonne la paroi et qui fait aujourd'hui le cheval, je me dis, mais voilà quoi, on passe à travers le temps, on passe à travers un peu l'image peut permettre des raccords atemporelles incroyables, des ellipses, des manipulations de l'espace, de l'image. Et en fait, on sent, moi j'ai ce sentiment de ne pas être si loin d'eux. S'ils ne sont peut-être pas si loin de nous, j'ai le sentiment de ne pas être si loin. Je ne peins pas aussi bien, je n'ai pas le même outil, j'ai une caméra, j'ai un micro, c'est peut-être plus facile que d'avoir ce geste très précis, très beau, ces techniques maîtrisées que l'on trouve dans la grotte Chauvet. Moi, je représente, avec les outils d'aujourd'hui, eux, certaines personnes, ces hommes ou ces femmes, ont représenté l'environnement, leur monde, avec des codes, avec des histoires qui devaient se raconter hein, à travers... On voit très bien qu'il y a une sorte de scénario quand on voit ces fresques. On peut s'avancer, on peut se raconter des histoires, c'est ce qui est beau. Se dire, je connais la véritable histoire du pourquoi, du comment, et c'est cette histoire-là. Il n'a pas été filmé à l'époque par les collègues documentaristes comme nous, ce que nous faisons aujourd'hui. Mais voilà, peut-être que...
Autre aspect de ce travail, c'est l'aventure humaine derrière la réalisation attendue pour fin 2014 de l'espace de restitution. Il y a des hommes, des scientifiques, des artistes, des élus, des maçons et d'autres personnes encore que tu filmes presque au jour le jour.
Ouais, c'est une aventure humaine magnifique, incroyable, où, en fait, on s'aperçoit dans l'espace, on pourrait dire c'est une sorte de musée pour la grotte Chauvet, c'est-à-dire, voilà, on la sort de son espace naturel, on la reproduit dans un bâtiment, aujourd'hui c'est une coque, et on fait une grotte. Les figures sont représentées à l'échelle 1, et ça met en relation des disciplines et des personnes pour réaliser ce projet, qui parfois n'auraient peut-être pas vraiment à faire ensemble. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment la collectivité met en œuvre tout ça, hein, le département, la région, l'État, ce sont des financements publics pour la plupart, hein, l'Europe, pour donner à voir cette grotte pour la préserver. Nous avons à l'intérieur des scénographes, il y a les gens du bâtiment, il y a la relation de tous les artistes, sculpteurs, peintres, avec des personnes de l'équipe scientifique qui connaissent très bien la grotte. Et il y a un travail de transmission qui se fait dans un temps record. 5 ans, je filmais depuis 5 ans. Alors, on parlait tout à l'heure, 36 000 euros, c'est peut-être pas grand-chose. Et on se dit, 4-5 ans, c'est vraiment un travail qui se fait avec en plus une énergie étonnante. Travailler sur Chauvet, pour la plupart de ces personnes, je l'ai tout le temps observé. Que ce soit des scientifiques qui viennent du bout du monde, qui rentrent dans la grotte ou qui viennent parler avec leurs collègues. Que ce soit des gens des médias. Soit les gens du bâtiment qui réalisent aujourd'hui l'ouvrage, les techniciens qui travaillent, les élus, tout le monde est quelque part, allez, c'est pas le mot électrisé, mais dynamisé par ce projet, parce qu'il est peut-être cet espace nécessaire à l'être humain qui l'amène à sortir de lui. Et du coup, voilà, il y a des savoir-faire manuels incroyables, il y a des artistes, des scientifiques, des élus, du politique, des maçons, tout le monde est là, des architectes, des scénographes, des gens qui pensent. Et ce qui m'intéresse, c'est justement ce passage de la pensée et la mise en œuvre de ça, c'est-à-dire le passage à l'acte et la matérialisation à un moment où on va être confronté vraiment à la sculpture, on dira, à l'objet même, qui fait que, voilà, on pourra s'immerger à l'intérieur de cet espace. Pour moi, c'est toujours ce que j'ai vu, une aventure humaine avec des compétences, des approches, des sensibilités très différentes. Et c'est complètement étonnant, on fait quelque chose d'humain avec toutes les données les plus qu'on a avec notre vie aujourd'hui et nos outils. La grotte a été relevée avec un scan 3D. On regarde ça, ça fait un maillage, tac, on a les volumes avec une précision incroyable. Si on réfléchit, on a d'un côté ce numérique très précis et d'un autre côté, on a ce geste très... dynamique, emporté, fait en très peu de temps. Et c'est ce rapport qui est étonnant, quoi. Y a le geste, l'énergie, il y a l'humain. Quand on parle de l'humain, c'est ça. C'est cette chose un peu incontrôlable, là, ce geste aléatoire qui ne peut être jamais le même, qui porte en lui la vérité du moment où il est fait. Et puis, on a le numérique qui relève un espace et qui peut être, qui sert à la copie, qui sert à la reproduction. Et là, on est dans autre chose, quelque part. On est dans ce rapport, nous, au monde, aux images, à l'espace et au temps. Donc voilà, c'est des compétences différentes et qui mettent en œuvre des temps différents et des réflexions comme ça. Et c'est magnifique, quoi. Et dans un temps record.
Mais tournez ainsi, Christian Tran, depuis 5 ans quasiment. C'est une richesse sans nom pour le réalisateur que vous êtes.
Cette richesse, c'est d'être au moment où les choses se font, dans la vie, dans le rapport du mouvement, du temps, de la réflexion, de la pensée, c'est un luxe incroyable. Ce n'est pas de l'information différée, c'est, je dirais, être dans le présent, dans l'humanité, dans le présent des choses. C'est un luxe aujourd'hui très coûteux, parce que les producteurs, les productions, les médias dans l'ensemble veulent aller très vite, veulent toujours envoyer du nouveau. Et le stock, moi, quand je parlais de la Grotte Chauvet à 5 ans à des médias, je disais, mais oui, 5 ans, c'est risqué. Nous avons vraiment fait un travail de fond où nous menons un travail d'archivage, un travail de réalisation documentaire. Et ça, c'est bien parce que c'est un projet qui est exceptionnel pour le territoire, mais bien au-delà du territoire, avec le classement UNESCO qui va certainement arriver et la proposition qui a été faite par l'État français pour le classement. Tout ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire de ce territoire. C'est rare.
Alors le réalisateur a tourné, énormément tourné depuis 5 ans. Il y a des rushs et des heures et des heures et des dizaines et des centaines d'heures peut-être. Il y a 1000 heures aujourd'hui. Bien sûr, il y a tous les aléas de la production, etc. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces images?
Ça, c'est une vraie question. Si on prenait la même question par rapport aux images qui sont dans la Grotte Chauvet que l'on reproduit aujourd'hui, que faisons-nous des images? Et ça, c'est une question profonde. Dans ce cas où nous tournons, il est clair qu'aujourd'hui, nous faisons des petits films à destination de la communication du projet pour les collègues qui travaillent au syndicat mixte là-dessus et dans différentes sphères pour la bonne compréhension du projet. Il y a une part d'archivage de choses qui peuvent, je pense, dans le temps, révéler vraiment comment, de manière institutionnelle, la collectivité monte un projet comme ça pour donner à voir ces images. Mais il y a aussi, à destination de télévision, de médias, un travail qui se fait, peut-être du cinéma aussi. Et cette matière va être travaillée très prochainement, dans le sens justement d'un montage, hein, de raccords, de récits possibles, avec des entrées thématiques, si c'est à une destination, par exemple, d'une plateforme documentaire qu'on pourrait faire pour donner aux spectateurs la possibilité de naviguer à l'intérieur de ce projet.
On parle de production sur Internet, alors.
Production sur Internet, production à destination des télévisions et la possibilité de faire un long métrage avec... Nous avons tourné des supports d'anticipation, je dirais, de la diffusion dans les salles de cinéma. Comme nos cinémas ici, localement, on le voit aujourd'hui, et les futurs dont j'ai entendu parler sont équipés totalement avec des supports de projection numérique. Eh bien, il y a 4 ans... nous avions déjà senti, et c'est là où les technologies parfois nous asservissent, nous dépassent, mais c'était nécessaire. Nous avons fait le choix de tourner avec du matériel haute définition qui serait dans le coup 4 ans ou 5 ans ou 6 ans après, et encore pour des années à venir quand même, on l'espère. Donc on a la possibilité de faire des objets à destination de plusieurs médias avec des supports très différents.
Mais à cette heure, on en est où, Christian Tran? Il y a déjà des producteurs engagés?
Aujourd'hui, tout est en discussion. Tout ça va sortir autour de 2014-2015. Comme nous dépendons de la manière dont le projet avance, nous avons à filmer la cristallisation de toutes les réflexions, de toutes les réalisations qui sont faites sur le Razal, les peintures, les panneaux incrustés dans la roche, les patines et tout ça. Ça va se faire cette année. Nous ne pouvons pas livrer des films sans avoir justement, je dirais, la clé, quoi, un peu. C'est intéressant, maintenant que nous avons passé déjà 4 ans dans ce projet, d'aller jusqu'au bout pour avoir vraiment... Ben, les moments où, par exemple, si on veut donner cette information-là, mais bon, il a fallu acheter les terrains, il a fallu choisir des architectes. Et tout ça, c'est des moments qui ont été, je dirais, filmés, mais qui inscrivent le projet dans un temps. Et quand on travaille sur cet environnement avec Chauvet, cette Grotte Chauvet et cette restitution, on ne peut pas se soustraire à cette notion de temps. Et quand nous parlions de quête tout à l'heure, de méandre dans lequel on peut se perdre, pour moi, il y avait cette course malgré tout et qui continue jusqu'à la fin du projet pour être inscrit dans le rapport au temps de ce projet. Et ça, c'est pas 6 mois, c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est pratiquement 5 ans. Et 5 ans dans une vie où On s'attelle à un projet, beaucoup de choses se passent dans le projet et dans notre vie. Mais le projet a tendance à devenir un peu notre vie parfois. Et faire des films, c'est assez obsessionnel d'une certaine manière. On est hanté par le sujet, hanté par le projet. On vit avec, on dort avec, on rêve avec. C'est pour ça que ça vaut la peine aussi de faire ces choses-là, quoi. Parce que c'est plein, c'est prenant, c'est beau.
Merci Christian. Poursuivons ce rendez-vous d'octobre d'Empreintes d'Humanité en retrouvant Maud, élève de 3e au collège de Vals-les-Bains. Maud est allée promener son micro pour savoir ce que pense le public du classement UNESCO de la grotte Chauvet.
Pourquoi pensez-vous qu'il est important que la grotte Chauvet soit classée au patrimoine mondial de l'UNESCO ?
Alors, je pense que c'est important qu'elle soit classée au patrimoine mondial de l'UNESCO parce que c'est quand même quelque chose d'unique qui a été découvert. Et également pour ce monsieur Chauvet, qui a découvert la grotte. Et comme ça, ça met un peu de crédit à sa découverte.
Est-ce que vous pensez qu'il est important que la grotte Chauvet soit classée au patrimoine mondial de l'UNESCO ?
Oui.
Et pourquoi ?
Et protégée surtout. Parce que c'est notre histoire, c'est notre mémoire, donc il faut surtout bien la protéger.
Je pense que c'est très important. Ça permettra d'abord de protéger les fresques qui ont été trouvées, pour éviter qu'elles soient détériorées, et peut-être aussi de développer le tourisme dans le sud de l'Ardèche, de faire connaître ce territoire au niveau national et international.
Oui, ça permettra de valoriser le patrimoine ardéchois.
Alors, je pense que c'est important qu'elle soit classée au patrimoine mondial de l'humanité, et tout simplement pour qu'elle soit préservée, pour que les générations futures puissent profiter de cette découverte.
En effet, il faut la préserver car elle est une source de témoignages concernant une époque qui n'est pas encore bien maîtrisée. Donc on a encore plein de choses à apprendre. Oui, c'est quelque chose qui doit être classé au niveau mondial, en effet.
Merci Maud pour ce micro-trottoir. Autre micro en balade, celui de Christelle Borel d'Info RC. Christelle était ce lundi 7 octobre à Salavas, à l'occasion de la campagne automnale de recherche scientifique de la grotte Chauvet. On y parle, entre autres, des ossements d'ours qui continuent de fasciner les scientifiques.
Il faudrait un livre sur les ours dans la grotte Chauvet. Crois-moi qu'il y a de quoi faire un beau livre. Parce que dans la grotte Chauvet, il y a non seulement les dessins, mais il y a ce qu'il y a sur le sol. Et sur le sol, ils ont quasiment 200 squelettes d'ours. Je crois qu'ils ont compté 195 crânes, quelque chose comme ça. Donc il y a au minimum 200 ours des cavernes qui ont crevé dans la grotte. Il y aurait dans ce livre, il pourrait y avoir l'étude des squelettes des ours, l'étude des scènes des ours et l'étude des modifications des squelettes, parce que les hommes, ils ont vu ces ours. Et c'est bien connu qu'il y a un crâne d'ours qui a été posé sur un caillou, une pierre détachée de la voûte au centre d'une salle. Et à un autre endroit, il y a deux humérus d'ours, c'est les gros os, qui ont été plantés dans le sol, pas très loin de l'entrée, à une dizaine de mètres d'intervalle, chacun sur la moitié de leur hauteur. Vous voyez, il y a des collègues qui ont dit « mais non, c'est pas possible, c'est l'eau qui les a transportés ». Alors, moi, j'y suis allé avec Michel Philippe, qui était un spécialiste qui est des ours, et des géologues, Jean-Jacques Delannoy. On y a passé une matinée, il a tout examiné, et il me dit, dans celui-là, qui est là, c'est impossible rigoureusement que ce soit l'eau qui l'ait redressée. Elle ne peut venir que de tel endroit, on le voit très bien, c'est pas possible qu'il y ait eu un courant qui l'ait remonté, c'est pas possible. Donc là, on a la preuve formelle qu'il y a eu une action humaine. Et vous voyez, on l'a avec des spécialités différentes. Donc, c'est comme ça que l'équipe fonctionne.
Comme nous l'explique Jean-Claude au travers de cet exemple de l'ours, c'est une équipe pluridisciplinaire qui étudie la grotte Chauvet. Bernard Gély est archéologue, spécialiste de la préhistoire au ministère de la Culture, direction régionale de Lyon, membre du comité scientifique.
J'ai eu la chance d'être très tôt, dès la découverte, d'intervenir dans la cavité. Donc les premières années ont été consacrées à l'étude, mais disons un survol de la décoration pariétale, puisqu'il y avait un gros travail d'enregistrement, hein. Tout était à faire, il fallait établir des bilans, déjà savoir dans quelle aventure on allait s'engager.
Jean-Claude, directeur de recherche de la grotte de 1998 à 2006, revient sur la création du comité scientifique.
Lorsque la grotte a été découverte, on nous a demandé de venir, et on a été évidemment stupéfait de voir tout ça. Donc j'ai fait un rapport au ministère, ainsi de suite. Ils m'ont demandé d'emblée de faire les premières études. Donc j'ai fait des prélèvements de charbon pour avoir des datations radiocarbone. Et avec les dates qu'on a eues, tout à fait inattendues, c'était les dates les plus anciennes qu'on ait pour la préhistorique à ce moment-là. J'ai commencé à monter une équipe. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est qu'au ministère, la directrice du patrimoine a décidé de faire un appel d'offres. En fait, il n'y a eu que deux équipes concurrentes. Et il y a eu un jury international. Je crois qu'il était 9 hautes personnalités qui ont fait partie de ce jury. Et c'est nous qui avons gagné.
Aujourd'hui, vous vous regroupez 2 fois par an. Comment vous en êtes arrivé à cette organisation ?
Oui, l'organisation, ça a été parce que c'est impossible de venir l'été avec les touristes qu'il y a, etc. Donc on avait dit, on viendra au printemps et à l'automne. Au début aussi, on allait à la grotte beaucoup. Et donc on avait dit, il vaut mieux couper, au lieu de faire un mois et demi de travaux où on va être crevé, parce que le type qui trébuche, qui tombe, qui écrase un crâne d'ours, il va dire « Ah, je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès ». Non, ça c'est des risques qu'on ne peut pas prendre.
La nécessité de préserver la grotte a également joué dans ce choix. L'accès étant limité à 12 personnes, le comité scientifique ne pourra d'ailleurs pas y descendre pour leur campagne d'automne. Mais grâce à du matériel performant, cette équipe continue à nous livrer l'histoire de la grotte au travers de publications. Marc Azema, spécialiste de l'histoire de l'art des cavernes.
On essaye de publier dans un premier temps dans un cadre scientifique, parce qu'on doit produire des résultats à travers l'ensemble de l'équipe. On doit d'abord publier dans ce cadre-là, donc c'est sous la forme de bulletins, sous la forme de colloques, de conférences. Donc c'est des choses qui sont mises en place progressivement avec le temps. Et là, on travaille sur des synthèses actuellement, ce type de publication qui permettra de synthétiser l'ensemble, l'énorme quantité d'informations qu'on rassemble d'un côté et de l'autre. Et c'est vrai que c'est pas simple, parce que c'est une équipe assez importante, et c'est qu'il y a énormément de résultats qui ont été recueillis, donc ça va prendre du temps. Et à côté de ça, on essaye aussi d'amener ça vers le grand public à travers des publications, mais également des conférences, des interventions. Et notamment récemment, avec Jean-Claude, on est intervenu dans le cadre du Théâtre du Rond-Point, enfin pour une conférence qui justement portait sur les origines potentielles du cinéma dans l'art préhistorique.
La nouvelle campagne scientifique d'automne a débuté le lundi 7 octobre à Salavas pour 3 semaines.
L'objectif, c'est essentiellement sur le point où on en est, dans les études, ce qu'on va publier, les travaux en cours et le projet pour les années qui viennent, pour les 3 années qui viennent. Parce qu'on arrive à en fait, ce qu'on appelle le triennal, c'est-à-dire qu'au ministère de la Culture, ils vous donnent les autorisations en général pour 3 ans. Quelquefois, ils vous renouvellent un an, ce qui a été le cas pour nous. Et là, il faut faire un gros rapport de synthèse. Et on fait le projet pour 3 années de plus. Alors, quelquefois, ils vous donnent simplement une année, ou quelquefois, ils vous en donnent le 2, ou quelquefois, ils vous en donnent le 3. Voilà. Donc, on va discuter de ça, c'est-à-dire le bilan, le projet et surtout les publications.
Refermons Empreinte d'humanité avec le bloc-notes, l'actualité du grand projet Grotte Chauvet-Pont d'Arc, et ce mois-ci présenté par Marie-Charlotte Laudier et Elodie Fayard de RCF Vivarais.
Comme La Poste, dites oui à la candidature UNESCO et adhérez au comité de soutien depuis le site internet lagrottechauvetpontdarc.org.
C'est parti pour les actus d'octobre-novembre. Une période qui voit se bousculer plusieurs grands rendez-vous pour la Grotte Chauvet. D'abord, la campagne scientifique d'automne. Elle va s'achever le 18 octobre. Pendant une dizaine de jours, l'équipe scientifique dirigée par Jean-Michel Genest était logée à la base départementale de Salavas.
Et cette équipe pluridisciplinaire réunit une quinzaine de spécialistes et chercheurs de l'art pariétal, de la faune fossile, de vestiges archéologiques, de la géologie, de l'hydrologie, de la paléontologie et de la conservation. Dépêchez-vous de vous rendre à Vauguet pour visiter Chasse Magique.
L'expo décentralisée du musée du Quai Branly présente 55 œuvres issues de ses collections. Masques, sculptures, trophées, ornements et armes venues d'Afrique, d'Océanie et des Amériques. La Grotte Chauvet dialogue avec les arts premiers et nous questionne sur la mystique de l'art de la chasse. L'expo fermera ses portes le 3 novembre prochain, alors dépêchez-vous si vous ne voulez pas la rater.
Et puis, pour un avant-goût sonore, vous pouvez podcaster Empreinte d'humanité de septembre 2013 qui vous proposait un reportage visite guidée de cette expo. Allez, on enchaîne avec deux conférences à venir.
La première s'intitule « Dialogue avec les arts premiers » par Régidia Souto, guide conférencière au musée du Quai Branly et proposée par l'association Vivante Ardèche dans le cadre de l'exposition « Chasse magique ». Art sauvage, art nègre, art primitif, art extra-européen. Comment est-on passé d'une vision exotique et d'un goût du sauvage à une vision empreinte de valeurs humanistes ?
C'est donc le samedi 19 octobre à 17h30 à la salle polyvalente de Vauguet. L'entrée est libre. Seconde conférence à venir consacrée au grand projet de la Grotte Chauvet-Pont d'Arc. Ce sera à Privas le 8 novembre prochain. Elle sera animée par David Huguet et les élus du syndicat mixte François Jacquard et Hervé Solignac, avec au programme une présentation de l'espace de restitution, un point d'actualité sur la candidature UNESCO et les enjeux pour le territoire.
Ça se passera donc à l'espace Ouvès de Privas à 20h30 et l'entrée est libre. Le dernier rendez-vous est pas des moindres. Toute une délégation ardéchoise du comité syndical Grotte Chauvet, accompagnés de partenaires et de médias locaux, font faire le déplacement jusqu'en Dordogne. Ce sera les 14 et 15 novembre prochains. Alors pourquoi la Dordogne, me direz-vous ?
C'est parce que c'est là, à Montignac, que depuis plusieurs mois déjà, l'atelier Arc et Os d'Alain Dalis travaille à la reconstitution de 27 panneaux pariétaux, des œuvres d'art en elles-mêmes sur lesquelles les peintures de Chauvet seront reproduites.
Rassurez-vous, on vous en reparlera parce que l'équipe d'Empreinte d'Humanité sera du voyage.
Et c'est ainsi que se referme Empreinte d'Humanité. Merci à tous, on se retrouve le mois prochain. Au revoir.
Empreinte d'Humanité, le magazine du grand projet La Grotte Chauvet Pont d'Arc. En partenariat avec Fréquence 7, Info RC et RCF Vivarais.